La revue de presse avec vous, Jean-Philippe Balaz, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour.
Et il est question ce matin dans les journaux de funambules.
Oui, c'est ainsi qu'ils se décrivent, comme des funambules. Si on regarde devant, on avance pas à pas. Mais si on se retourne, alors là, on tombe. Une phrase qui résonne dans les pages de Ouest France. Les funambules, ce sont les parents de Mathias, leur fils unique, 22 ans, fauché par les terroristes du Bataclan le 13 novembre 2015. Il y avait aussi son amie, sa moitié. Elle s'appelait Marie, elle avait 23 ans. Une photo du jeune couple complice avait beaucoup circulé à l'époque sur les réseaux. Et elles sont à nouveau partout ce matin dans vos journaux, les victimes des attentats, à quelques jours du début d'un long procès historique à la une de Sud-Ouest et de l'Est républicain, la façade du Bataclan sur celle du Midi Libre, et puis les terrasses de café, terrasses martyrs qui revivent en première page du Parisien dimanche. Et toujours cette question, que peut-on attendre d'un tel rendez-vous après une telle tragédie? Comment avancer sur ce fil de funambule et gérer cette colère qui remonte? Le père de Mathias se souvient. Mon fils me disait, ne perds pas ton temps avec les imbéciles, il y a tellement de gens bien. Alors les parents et ceux de Marie ont monté une association avec des amis de leurs enfants pour aider les autres jeunes dans leurs autres vies, pour entretenir le souvenir aussi. Parce que c'est une autre interrogation. Comment parlera-t-on de ces attentats dans 10 ans, dans 20 ans? Le Midi Libre et le JDD vous racontent cette vaste étude scientifique hors norme lancée quelques mois après les attaques. En 2016, menée avec des chercheurs de l'INSERM, du CNRS, elle propose de suivre la construction, l'évolution de cette mémoire avec des survivants, des proches, des policiers, des médecins, des milliers d'heures d'enregistrement, des gens qui suivront le procès, de près ou de loin, forcément. Parce qu'il ne s'agit pas d'oublier la douleur, disent les thérapeutes, mais de renvoyer cet événement là où il doit être, dans le passé, pour que le funambule continue d'avancer.
Vous nous parlez aussi, Jean-Philippe, d'un nouveau départ.
Qu'elle espère ardemment avec ses lunettes sur le nez et son ballon sous le bras. Voici Fanous Bassir, 25 ans. Elle est ingénieure et membre de l'équipe de foot féminine d'Afghanistan. Enfuie de Kaboul et arrivée ici en Loire-Atlantique avec une petite centaine d'exilés, vous dit Ouest France. Fanous, qui a découvert le foot à l'âge de 6 ans quand elle était réfugiée déjà au Pakistan. Fanous qui a mis plusieurs jours pour atteindre l'aéroport de Kaboul, qui a dû porter la burqa, qui a beaucoup pleuré. Et Fanous qui espère s'installer en France, reprendre ses études, taper dans le ballon. Elle se donne 6 mois pour apprendre notre langue. Et dans cette nouvelle aventure, Fanous va devoir aussi, surtout, discuter avec le personnel de l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et apatrides, dont on suit le travail important, délicat, dans les colonnes du JDD. Des entretiens, parfois fébriles, avec celles et ceux qui rêvent du statut de réfugié. Il faut écouter les récits, déceler les éventuels mensonges. Le doute fait partie intégrante du quotidien. La peur d'accorder une protection à un bourreau dissimulé, ou celle au contraire de renvoyer chez lui quelqu'un qui sera persécuté. Sans parler de la cadence infernale des rendez-vous, près de 400 par jour. Les officiers sont plutôt jeunes, mais ne tiennent pas longtemps à ce poste. Tout dépend de la sensibilité de chacun et de la distance que l'on arrive à y mettre. Et pendant ce temps, là-bas à Kaboul, une chaîne de télévision continue de travailler, ou du moins essaie. Elle s'appelle Tolo News. Il y a 2 heures, elle a posté un reportage sur son compte Twitter. On y voit une nouvelle manifestation de femmes, avec banderoles et poings levés, bien vite encerclées par des soldats talibans. Ils mettent la main sur l'objectif de la caméra. De l'importance des images, oui. Visa pour l'image, le célèbre et prestigieux festival de photojournalisme. Il vient de remettre ses prix. L'un des lauréats restera anonyme, oui, pour des raisons de sécurité. Il est birman et a couvert la révolution du printemps pour le New York Times. Travail puissant, allez le voir. Il ne met plus son casque marqué presse depuis que ce casque est devenu une cible.
Et dans la presse de ce dimanche, il est aussi question d'assistance.
Assistant social, joli métier. Je vous présente Bernard, colosse barbu et souriant, et sa collègue Céline, plus petite mais pas moins motivée. Vous les verrez dans la Voix du Nord ce matin. Devant une bâtisse de briques rouges, elle abrite désormais leur association dans le Pas-de-Calais, un local d'accueil pour les victimes de violences conjugales. Celles dont on parle encore moins que les autres, parce qu'elles ont lieu ici, en milieu rural. Elles ne sont pas forcément plus nombreuses, vous dit Céline, mais elles sont plus sournoises, parce qu'à la campagne, tout le monde se connaît et personne n'ose vraiment parler. Et puis bon, pour les structures d'accompagnement, il faut aller dans les grandes villes. Et franchement, entre Hazebrouck et Béthune, vous ne trouverez pas grand-chose. Il y avait donc urgence. C'est pour cela qu'on salue Céline et Bernard, comme tous ces autres bénévoles, bretons cette fois et célébrés à la une du Télégramme. Je vous laisse avec les mots de Marie-Thérèse, volontaire au Secours populaire. « Je sais ce que c'est d'avoir faim. Ça vous prend tout. Oui, j'ai été pauvre, mais on m'a aidé. Je me suis relevé. » Et maintenant, c'est à mon tour de donner.
Jean-Philippe Balaz à la revue de presse. Merci Jean-Philippe.